Nous voici donc arrivés à notre dernière étape, étape qui est merveilleuse comme nous le savons. Le titre qui en a été donné, c'est la foi rendue parfaite, c'est-à-dire qui a atteint son but. Et en quelque sorte pour Abraham, la parole de Dieu dans laquelle il mettait toute sa confiance, était plus certaine que la vie de son propre fils. Nous lirons tout d'abord le chapitre 22 jusqu'au verset 14, puis nous lirons la suite plus tard. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Et il dit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin, et batta son âne, et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, et Isaac son fils. Et il fendit le bois pour l'holocauste, et se leva, et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux, et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses jeunes hommes, « Restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père, et dit, « Mon père !» Et il dit, « Me voici, mon fils !» Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham bâtit là l'autel et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva ses yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par les cornes. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là Jéhovah Jiré, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous l'avons déjà dit une fois, nous le répétons encore une fois, ce chapitre est introduit par ces mots « après ces choses ». Nous rappelons simplement que du chapitre 12 au chapitre 14, il était surtout question de l'héritage. Du chapitre 15 au 21, de l'héritier. Et puis, maintenant, nous entrons sur ce chapitre qui nous parle de la résurrection, du terrain de la résurrection. Après ces choses. Et quels étaient les derniers événements? Nous l'avons vu hier soir. Abraham avait dû se séparer d'Ismaël, et on avait vu, pour lui, ça avait été dur. Au verset 11 du chapitre précédent, nous avions lu, et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Sarah avait la pensée de Dieu, et Abraham finalement l'a saisie, mais pour lui, ce n'était pas facile de se séparer de ce fils. Et voilà que Dieu lui demande une nouvelle épreuve. Non seulement Ismaël, mais maintenant c'est Isaac aussi. Étonnante cette nouvelle épreuve qui est suprême pour Abraham, alors qu'il avait tant attendu ce fils, l'héritier, voilà qu'il fallait le donner. Il y avait eu des bénédictions dans la vie d'Abraham. Il lui avait donné ce fils. Et maintenant, était-il encore nécessaire d'avoir un nouvel examen de foi? Il avait eu des hauts, des bas. On a vu qu'il avait répondu à l'appel de Dieu, qu'il avait tout quitté, qu'il avait poursuivi les rois qui avaient emporté Lot. Il s'était porté au secours de son neveu. Et voilà encore une épreuve. Pour Abraham, c'est en quelque sorte le dernier test, une dernière épreuve. Et pour Isaac, c'est en quelque sorte la première acte de foi. Mais malgré tout, ce qu'il y a beau de remarquer, c'est cette continuation des promesses, de cette bénédiction de Dieu qui se transmet de génération en génération. Au sujet de l'épreuve, vous voyez la note au verset 1, il est dit « éprouva » et en note il est dit « tenté ». Alors je crois qu'il faut que nous fassions bien la différence. Quand nous lisons entre une tentation qui vient de l'ennemi et une tentation ou épreuve, une mise à l'épreuve qui vient de Dieu. Jacques 1, 13 est important et nous dit que nul quand il est tenté ne dise « je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne. Alors que l'ennemi, lui, il tente pour nous faire tomber. Et nous avons l'exemple tellement clair lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère public, il a été tenté par le diable qui voulait le faire tomber, le faire chuter. Et nous savons que le Seigneur Jésus a toujours répondu par la parole de Dieu à cette tentation de l'ennemi. Mais lorsque nous pensons à l'épreuve qui vient de Dieu, nous avons en 1 Corinthiens 10 un beau verset qui nous dit, verset 13, « Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentez au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Il donne l'issue. » Eh bien, c'est ce que nous verrons dans ce passage que nous avons lu. Et puis pour nous, une épreuve, comme pour celle d'Abraham ici, elle est soudaine. Elle est imprévue, elle est en quelque sorte révoltante, elle est dure, et puis elle peut être parfois courte ou parfois longue. Ici, c'est 3 jours qui se passent jusqu'à ce que l'Éternel donne l'issue, et parfois peut-être pour nous dans nos vies, l'épreuve est plus longue. Mais souvenons-nous que le Seigneur, l'Éternel, notre Seigneur, donnera l'issue. Entre la demande de Dieu que nous avons au verset 1, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et jusqu'au moment où Abraham brandit le couteau pour l'égorger, nous n'avons aucune communication directe qui nous est rapportée. C'est comme un silence de Dieu qui est étonnant. Aucun sentiment d'Abraham ne nous est révélé dans le texte tel que nous l'avons. Mais nous pouvons penser quand même. Quelle tempête y a-t-il à voir dans le cœur d'Abraham? Que Dieu lui demande de sacrifier son fils alors que la parole de Dieu le dira plus tard, mais que les sacrifices humains étaient interdits. C'étaient les Cananéens, c'étaient les idolâtres. Et pourquoi Dieu me demande mon fils? Et sacrifier le fils de la promesse des espérances, Ismaël peut-être, mais Isaac, qui était jeune encore, non, qui n'avait pas d'épouse, qui n'avait pas de descendance, l'offrir en holocauste, et ce mot holocauste, comme c'est relevé sur le schéma, il est mentionné 6 fois, comme pour souligner l'importance, le drame d'offrir son propre fils en sacrifice. L'épreuve de Dieu, il en donnera l'issue, et maintenant, c'est cette obéissance qui ressort par ces mots, « Me voici, prends ton fils. » À vrai dire, Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac, mais il souhaitait avoir Abraham pour lui-même. Et c'est ce que aussi Dieu souhaite de notre cœur. Il dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il veut que nous lui donnions tout notre cœur. Et c'est bien ce que Abraham démontre lorsqu'il obéit à Dieu. « Me voici. » Cela nous rappelle comment le Seigneur Jésus s'est présenté. « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Psaume 40, Hébreux 10. Et pour nous, nous avons cet enseignement que l'obéissance offre toutes les garanties quand elle est immédiate et sans réserve, et elle empêche les réactions de la chair. On ne voit pas ici Abraham qui se pose des questions. Elles ne nous sont pas rapportées. On voit qu'il obéit immédiatement, sans réserve, parce que s'il s'était posé beaucoup de questions, mais la chair, ses sentiments seraient intervenus, elle aurait empêché, aurait été un handicap pour obéir, pour accomplir le plan de Dieu. Alors, notre vie serait peut-être beaucoup simplifiée si notre obéissance était prompte et immédiate à tout ce que le Seigneur nous place devant nous, nous demande. Il désire notre cœur, premièrement, bien sûr, et puis il y a toutes les occasions qui nous sont données de le servir. Alors nous savons que nous trouvons souvent beaucoup d'excuses, mais regardons ici, Abraham n'a donné aucune excuse, il a agi. Il est important de remarquer au verset 2 que c'est la première fois que dans la parole de Dieu que nous avons ce mot « celui que tu aimes ». C'est la première fois qu'il est fait mention du verbe « aimer ». Et c'est beau de penser que c'est la première fois, parce que cela met en évidence cet amour entre le Père et le Fils. Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses. Cet amour dont le Seigneur Jésus a été l'objet alors qu'il était homme sur cette terre, il était l'objet de tout le plaisir, de tout l'amour de son Dieu et Père. Celui que tu aimes. Et c'est son Fils unique, il n'y en a pas d'autre. Ton unique, c'était le cas pour Abraham Et c'était le cas pour Dieu le Père. Il n'y avait que son Fils, il n'y en avait pas d'autre. Alors là, le schéma nous fait souligner ce point-ci, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a que la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. De nos jours, nous avons tellement d'évangiles, de bonnes nouvelles ou de nouvelles différentes, de philosophies différentes, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Et il n'y en a pas d'autre. Alors, soyons conscients que lorsque l'occasion se présente de parler du Seigneur, qu'il s'agit du vrai évangile, de la bonne nouvelle, et qu'il n'y en a pas d'autre, et que nous pouvons être certains que lorsque nous annonçons Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nous passons à la rubrique B, où il est dit « par la foi », et il est donné la lecture du Hébreu 11, verset 17. « Par la foi, Abraham, étant éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit en Isaac, te sera appelé une semence. Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi, en figure, il le reçut. » Il reçut Isaac. Par la foi. Alors il est intéressant de relever ces actions successives que nous avons lues. Tout d'abord, au verset 3, il est dit « Abraham se leva de bon matin, il bâta son âne, prit avec lui ses deux jeunes hommes, Isaac son fils, il fend le bois pour l'holocauste, il se lève, il s'en va vers le lieu que lui avait dit. » Toutes ces actions, il les fait en pleine obéissance, sans se poser de questions, sans s'arrêter. Et une chose extraordinaire qui m'a frappé, c'est qu'il ne révèle rien, ni à Sarah, ni à quiconque d'autre. On parlait l'autre soir de communication. Pourquoi est-ce que Abraham n'a pas dit quand même à Sarah, voilà ce que Dieu me demande? Je pense que peut-être dans la vie, il y a des circonstances ou des moments où c'est vraiment entre le Seigneur et nous-mêmes que les choses se passent. C'est une communion intime et qui en reste là. Bien sûr, comme nous l'avons lu, Abraham avait la foi. Il savait que Dieu pourvoirait, qu'il y aurait la résurrection en quelque sorte. Mais il y a tout cette épreuve qui se passe seule. Donc, nous ne pouvons des fois dans nos vies, dans nos circonstances, ne pas partager certains fardeaux, certaines choses avec quiconque. Mais alors, comme Abraham, et pour nous c'est évidemment encore beaucoup plus, je dirais pas facile, mais nous avons le Seigneur, le Christ nous est révélé. Alors jetons les yeux, nos regards sur Christ dans ces moments-là. Au verset 4, le troisième jour, Abraham lève ses yeux et vit le lieu de loin. Trois jours, jusqu'à ce qu'il puisse lever les yeux et voir de loin. C'est comme si en quelque sorte, Dieu lui montrait déjà la montagne où il se révélerait comme le Dieu qui donne la vie, qui donne la résurrection, qui pourvoit. Mais en attendant, en voyant Morija, cette montagne de loin, il y a toute cette vallée de souffrance. Et cela nous fait penser à ce passage bien connu de Philippiens 2, où le Seigneur Jésus, on le voit descendre, et qui devient obéissant jusqu'à la mort de la croix. Morija, cette montagne où Salomon allait construire le temple plus tard, cette montagne dont il est dit, je crois que ça vaut la peine de lire le texte, qui est un beau texte de 2 Chroniques 7, 16, dit « Mes yeux et mon cœur sera toujours là. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. » Et nous savons que c'est là, donc, où plus tard Jérusalem sera construite, c'est là où le Seigneur sera crucifié, c'est là où il sera enseveli, c'est là où il sera ressuscité. Et tout cela par la foi, Abraham le voit de loin. C'est pourquoi, malgré cette épreuve, mais terrible, d'offrir son propre fils, il est dit en Jean 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. » Et tout cela, évidemment, par la foi. Parce qu'il avait cette confiance dans la parole de Dieu. Et comme nous le disions au début, pour Abraham, la parole de Dieu est plus certaine que la vie de son propre fils. Dieu n'a pas demandé un tel sacrifice à un autre homme. Cependant, Dieu lui-même